Hervé Lebras, bonjour.
Bonjour Michel Wieworka.
Je voudrais que tu nous expliques la façon dont sont apparues, puis se sont développées les classifications raciales, les idées de race. Est-ce qu'il faut commencer par la Bible ?
Oui, on peut commencer par la Bible, mais elle va intervenir un peu plus tard dans cette histoire. On peut commencer par elle en sens que la Bible est un texte très peu raciste, si l'on peut dire, puisque comme la Bible commence en principe un peu plus de 4000 ans avant Jésus-Christ, les races n'ont pas le temps de se constituer. Donc on a cherché à tirer quelques interprétations racistes de la Bible à partir de la différence entre les trois fils de Noé, c'est les Sem, Cam et Japhet. C'est pour ça que dans la littérature de la fin du 19e, on parle de la race camitique, de la race sémitique et de la race japhétique. Japhétique, c'est les blancs, camitique ou chamitique, c'est les noirs, et sémitique, c'est les arabes et les juifs. Mais ça n'a aucune consistance puisque ces trois fils de Noé, on ne voit pas comment Noé aurait pu donner naissance à trois races. Et le déluge se passe en plus de ça très tardivement, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc quelque part, il y a un obstacle au racisme dans la religion catholique. Et paradoxalement, c'est plutôt les anti-religieux, plutôt les agnostiques et les athées, les scientistes du milieu et de la fin du 19e siècle, qui ont été les racistes les plus importants. Mais ils n'ont fait en même temps que prendre un train en marche, si on peut dire.
Donc, si on veut réfléchir à l'émergence de la pensée raciste ou raciale, il faut faire un grand saut depuis la Bible. Il faut arriver vers le XVIIIe siècle.
Oui, c'est disons que en fait le début de la pensée raciste, c'est la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et je pense qu'il y a un événement très important qui se produit à ce moment-là. C'est la publication des textes de Linné, puisque Linné met en ordre la nature et donc il crée cette classification qu'on utilise encore maintenant en zoologie. Et dans cette classification, il y a l'équivalent de race, puisqu'on passe par des embranchements et puis ensuite ces embranchements sont en classe, puis en genre et puis on descend jusque aux familles et aux espèces. Et donc c'est une sorte de prototype pour classer le monde. Et ce prototype est repris assez rapidement, mais je dirais pas du tout dans le sens du racisme actuel. Il est repris pour essayer de caractériser la diversité de l'humanité qu'on est aussi en train de découvrir. C'est l'époque des grands voyages, c'est Cook, c'est Bougainville, c'est la Pérouse. Donc on voit apparaître des apparences physiques qui sont très différentes sur toute la surface de la Terre. Et surtout, on les voit toutes apparaître. Ça y est, la Terre est pratiquement entièrement connue quand on arrive au milieu du XVIIIe siècle. Et à ce moment-là, les auteurs commencent à faire au fond comme Linné pour la race humaine, et donc à distinguer selon la couleur de peau, selon la forme des cheveux, mais c'est très empirique et ça ne suppose pas de différence profonde. C'est simplement, il s'agit de classer l'apparence physique. Alors on a beaucoup d'auteurs de la fin du 19e, et l'un d'entre eux est particulièrement important puisque c'est Emmanuel Kant, le grand philosophe, et qui consacrera un petit opuscule aux races humaines. Et Kant distingue quatre races humaines en fonction de la couleur de peau, mais il le dit très clairement dans cet opuscule, c'est en fait uniquement une apparence physique, ça ne préjuge en rien de ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, Kant, là-dedans, il est fidèle à lui-même, était hostile à la psychologie. Il disait, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cerveau, puisqu'on ne voit pas ce qu'il y a dans le cerveau. Donc, de la même manière, on ne peut pas savoir ce que signifient ces couleurs de peau, puisqu'on ne voit pas à l'intérieur des cerveaux qui portent ces couleurs de peau. Ceci dit, il y a eu beaucoup de débats, parce qu'en même temps, Kant a fait une anthropologie, ou alors, il a, je dirais, un racisme très ancien, qui est simplement des lieux-dits sur les gens qui sont différents, mais qui n'est même pas du racisme, qui s'applique aussi bien aux Italiens, aux Anglais, aux Espagnols, à certains Allemands, qu'aux Noirs ou qu'aux Arabes. Il y a aussi ce vieux fond qui est comme pour l'antisémitisme. Il y a un vieux fond qui remonte pratiquement, je dirais, à l'Empire romain.
On peut penser que décrire des races est une chose, en déduire qu'une race, c'est des qualités intellectuelles, des qualités morales et pas simplement des attributs physiques, c'est peut-être une autre chose. On peut difficilement dire que Kant passe de la description physique à des catégories plus intellectuelles, plus morales, sur les individus. Est-ce que entre l'inné, qui lui ne parle pas de l'espèce humaine, si j'ai bien compris.
Non, absolument pas.
Hein, entre l'inné qui ne parle pas de l'espèce humaine et Kant, dont on peut quand même difficilement dire que ça a été un des promoteurs de l'idée de race telle qu'elle se développera ensuite, mais c'est présent chez lui, j'en suis tout à fait convaincu. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les pensées, quels sont les auteurs importants qui vont scander la marche en avant de la pensée raciste?
Il y a des auteurs qui sont tout à fait secondaires. Certains vont, c'est des auteurs allemands, certains vont être pour 5 races, d'autres pour 7 races. Là-dedans, avant Kant, il n'y a pas une grande différence. Ce qui pousse aussi Kant, j'aurais dû le dire, à cette distinction des races, c'est que Kant cherche à caractériser l'espèce humaine par rapport à toutes les autres espèces. Et il le fait de façon, je vais employer un mot compliqué, téléologique. C'est-à-dire, il pense que les individus dans chaque espèce animale se réalisent entièrement. Et ce qui est particulier à l'espèce humaine, c'est qu'elle ne se réalise pas en tant qu'individu, mais en tant qu'espèce. Autrement dit, les capacités de l'espèce humaine sont réparties différemment entre les individus. Et c'est quand toutes ces capacités auront été exploitées que l'espèce humaine arrivera à sa fin, à sa téléologie. Donc il y a là-dedans, je dirais, une construction qui est d'une grande amplitude et dans laquelle la question de race joue peu, mais en même temps, Kant est très lu, très discuté, donc il va nourrir un courant qui va se développer et se développer surtout à partir de, disons, du premier tiers du 19e siècle, parce que au même moment, il y a un grand développement des statistiques. Et à ce moment-là, dans tous les instituts de statistiques du monde qui sont en train de se fonder, on commence à classer les individus. Et la France est particulièrement en pointe dans ce domaine. Le grand fondateur de la statistique française, qui s'appelle Statistique Générale de la France, c'est un ancien officier remarquable, Moreau de Jeunesse. Et Moreau de Jeunesse publie un livre en 1848 dans lequel il sépare les Français en 14 races différentes. Alors le tableau est assez amusant parce qu'il montre bien le peu au fond de sérieux au sens actuel du terme, puisque on a des races comme les Vikings, alors bien sûr ils sont en Normandie, on a des Gascons, on a des Allemands, on a des Francs avec un K qui sont en Alsace, et donc des Alamans en Alsace, et puis il y a une dernière race, il met Parisien, parce qu'il n'arrive bien sûr pas à classer les Parisiens qui ont beaucoup d'origine, mais on est là encore dans l'optique de l'inné. Et c'est intéressant parce que, au fond, le tournant va se produire juste en une dizaine d'années, entre, au fond, 1850 et 1860, où on va voir apparaître successivement le livre de Gobineau sur l'inégalité des races et l'essai de Darwin sur l'évolution des êtres vivants. Et ces deux livres n'ont pas de rapport, mais ils vont, au fond, progressivement fusionner arrivé à la fin du 19e siècle. Le livre de Gobineau, c'est essentiellement une vaste plainte sur la manière dont la race la meilleure, celle des Aryens, est en train de décliner parce que ces Aryens, disons le mot, copulent avec tous les autres humains qui existent et donc s'abâtardissent. Et
donc il faut la pureté de la race pour éviter ce métissage qui est un abattardisme.
Oui, on pense souvent, le thème du racisme est souvent pensé comme des différences d'aptitude entre les races. Ça fait partie du racisme. Mais le noyau dur du racisme, c'est beaucoup plus la pureté de la race. Et les grands racistes, les grands auteurs racistes, au fond, soit se lamentent, soit donnent des recettes pour maintenir la pureté de la race, et ça va jusqu'à Hitler. Vous aviez à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, donc beaucoup plus tard, chez des auteurs français, puis surtout chez des auteurs allemands, ce qu'on appelait des unions de retrempe, c'est-à-dire en mariant des personnes abâtardies mais qui avaient eu une origine commune, on espérait retrouver, refonder la race. Et vous savez même qu'Hitler est passé beaucoup plus loin puisqu'il a créé ce qu'on appelle les Lebensborn, c'est-à-dire il a abandonné même l'idée que la race était génétique, se transmettait, pour rechercher dans toute l'Europe des individus blonds aux yeux bleus, des enfants qui ont été élevés, enlevés à leur mère et élevés dans des institutions spéciales pour recréer justement cette pureté de la race qui avait été abâtardie dans les siècles précédents. Donc ce thème de la pureté est très important et c'est le thème développé par Gobineau.
C'est pourquoi Tocqueville a une phrase, qui connaissait bien Gobineau, a une phrase très, très intéressante sur ce fameux ouvrage. Il dit « On a l'impression de lire la revue des haras ».
Oui, tout à fait. Alors, ceci dit, Tocqueville a la même raison pour le livre de Darwin, L'évolution des espèces, puisque ce qui sert de prototype à Darwin dans sa démonstration, c'est justement la manière dont les éleveurs sélectionnent. Alors, Darwin ne s'occupe pas des chevaux, il s'occupe des pigeons. C'est la manière, c'était une de ses passions. Donc, il explique bien comment on arrive à sélectionner des pigeons. Et il trouve là, dans cette sélection des pigeons, le mécanisme qui va lui inspirer la théorie de l'évolution. Simplement, il dit, ça va se produire très très lentement, puisqu'il n'y a pas la main de l'homme qui va fabriquer cette sélection des semblables, mais c'est l'isolement géographique qui va progressivement le fabriquer. Et à ce moment-là, Darwin va entraîner un chamboulement très profond de l'idée de race, puisque on va basculer vers tout un ensemble de scientifiques, notamment de biologistes, et ça nous ramène au début de cet entretien, de biologistes qui sont athées ou agnostiques ou même violemment anticléricaux, qui au contraire, eux, vont trouver dans la question de la race un moyen d'expliquer l'évolution de l'humanité. Et en tête d'entre eux, disons, une personne qui est un peu oubliée en France, mais qui est encore connue en Allemagne, qui est Ernst Haeckel. Ernst Haeckel est le plus grand savant biologiste de la fin du 19e siècle en Allemagne, et c'est lui qui est le traducteur de Darwin en Allemagne, il est auteur d'innombrables traités, et Ernst Haeckel va développer toute une classification des races extraordinairement compliquée, où il va chercher à loger toutes les espèces humaines différentes que l'on peut rencontrer, et il sera tout à fait lu et approuvé à son époque, parce qu'en même temps, c'est un très grand biologiste, c'est-à-dire, par exemple, c'est à lui qu'on doit le terme d'écologie, il invente véritablement cette discipline, c'est à lui qu'on doit les premières observations microscopiques et descriptions des unicellulaires. Pour donner une idée de son importance, des gros livres qu'il écrit, comme La morphologie générale, sont publiés en français et en anglais l'année même de leur parution en Allemagne. Donc il y a tout un courant, au fond, qu'on pourrait appeler mais avec des guillemets, raciste scientifique, qui va se développer à partir de la seconde moitié du 19e siècle et qui, cette fois-là, prend appui sur Darwin et surtout sur des misinterprétations de Darwin. Et on doit d'ailleurs dire que Darwin s'était méfié dès l'évolution des espèces de cette question. Il avait le sentiment que ça allait mal se passer. Et il avait d'ailleurs dit, à la sortie de l'origine des espèces, qu'il n'avait pas mis l'homme dans le livre. Et effectivement, il n'y a pas l'homme. Et il mettra l'homme simplement plus tard, dans un livre publié 8 ans plus tard, qui s'appelle The Descent of Man, mais c'est descent en anglais, c'est l'ascendance de l'homme, et où là, il traitera très sérieusement la question en montrant qu'il n'y a pas différentes races chez les humains.
C'est très intéressant de parler de l'inné puis de Darwin. Ni l'un ni l'autre ne développe des idées proprement raciales en ce qui concerne les humains, mais et l'un et l'autre exercent une influence dans le mouvement des idées de cette époque qui va aboutir à des classifications raciales et à des pensées proprement racistes. Et un gendre de Darwin a eu un rôle, je crois, ou un parent proche de Darwin a eu un rôle justement important dans ce passage de l'évolutionnisme au racisme.
Oui, ceci dit, c'est une affaire un peu plus compliquée en ce sens que c'est pas le gendre, c'est un cousin de Darwin,
cousin,
qui est Francis Galton, qui est un personnage de roman, un personnage excentrique qui est et qui va inventer une discipline qui s'appelle l'eugénisme. Mais de ce point de vue-là, on ne peut pas parler avec Galton de racisme. C'est-à-dire, il ne va pas distinguer les humains en groupes séparés et ayant des qualités différentes. Il va distinguer les hommes en tant que tels, selon leurs qualités. Et son idée, alors là, est vraiment une idée sélectionniste, c'est comment les marier le mieux possible, de façon à ce qu'on obtienne la meilleure humanité possible. Mais ce n'est pas l'idée du meilleur groupe humain possible, c'est l'idée des meilleurs humains possibles. Et il écrit d'ailleurs sur la fin de sa vie un petit texte qui s'appelle The College of Kansai Ware, qui est un collège eugénique qui inspirera beaucoup plus tard Le meilleur des mondes comme roman.
Alors, on a commencé avec la Bible, on l'a laissée de côté, quitte à la retrouver plus tard, on a continué avec Linné, on est arrivé donc à Haeckel, s'il s'agit de l'Allemagne, on est arrivé à Darwin, on est passé par Gobineau, il y a quand même peut-être encore un ou deux penseurs importants qui mérite d'être signalé dans ce mouvement des idées, disons, surtout du 19e siècle.
Oui, je pense pour la France, il y a un grand auteur raciste, enfin grand, là, à nouveau, avec toutes les précautions qu'on peut prendre, mais c'est un auteur qui va pousser à bout le raisonnement raciste, et cet auteur, c'est Vacher de la Pouge. Vacher de la Pouge est un personnage assez curieux, c'est un juge qui a plutôt raté sa carrière. C'est un socialiste révolutionnaire. Là aussi, il ne faut pas croire que c'est l'extrême droite qui a le monopole du racisme. Mais on est justement dans la logique darwinienne et dans la logique, au fond, anti-Bible. Et c'est justement parce qu'il réfute le récit biblique qu'il adopte le récit de la sélection humaine. Et d'ailleurs, son grand livre s'appelle « Les sélections sociales ». Le terme « social » est aussi intéressant parce que, par derrière l'idée de sélection biologique, il espère fabriquer une société où, comme le dira plus tard Alexis Carrel, il importe que les classes sociales soient des classes biologiques. Et donc, il va développer sur ce très gros livre, Les sélections sociales, toute une idéologie raciste qui sera reprise, et pas reprise par n'importe qui, puisque dans Mein Kampf, Hitler fera allusion à lui. Donc on peut dire qu'il a eu une importance, pas grande en France, je crois, mais au-delà des frontières. Et on retrouve alors chez Vacher de la Pouge toutes, disons le mot, toutes les bêtises du racisme. Particulièrement, et on revient sur la question de la mixité des unions et de la pureté de la race, il explique sur de longues pages comment les unions mixtes sont appelées à ne pas fonctionner. Il dit parce que les vitesses de développement des deux moitiés qui proviennent des deux parents ne sont pas les mêmes, donc ça crée des êtres disgracieux et ça crée des êtres aussi qui n'ont pas, dit-il, envie de se reproduire puisqu'ils ne descendent d'aucune race. Et plus loin encore, Vacher de la Pouge décrit l'existence des races, et c'est là qu'on voit aussi l'influence de Darwin, malgré Darwin, l'existence des races, non pas comme si c'était des races au sens des races animalières, par exemple des races canines, mais comme si c'était des espèces différentes. Et c'est là aussi qu'on voit comment le racisme, d'une certaine manière, transforme la nature biologique alors qu'il s'en inspire au départ. Il va en fait jouer sur l'analogie entre race et espèce et dire au fond que les races, c'est d'une certaine manière comme des espèces, d'où le fait du fait que les espèces ne peuvent pas ou très rarement s'hybrider. En principe, les races, elles non plus, ne peuvent pas s'hybrider. Et il va être aidé là-dedans par un auteur cité auparavant, Ernst Haeckel, qui a une phrase remarquable de tout ce courant d'idées. Il dit « Entre l'intelligence du plus sot des hommes et celle d'un Newton ou d'un Galilée, la différence est plus grande qu'entre l'intelligence de ce sot et celle des plus grands des singes. » Autrement dit, la coupure entre l'espèce humaine et l'espèce des grands singes n'existe pas. Il y a une sorte de continuum, et le racisme, c'est justement rejeter du côté, au fond, animal, une partie de l'humanité. Mais une vision qui est très commune à la fin du 19e siècle. Une révolutionnaire de la Commune, Clémence Royer, qui est quand même une conduite absolument héroïque et honorable, a écrit un livre dans lequel elle propose, pour supprimer le salariat et le prolétariat, de remplacer les ouvriers par des grands singes. Et on voit bien que là, il y a ce nouveau, malgré tout, malgré ses bonnes intentions, elle est dans la continuité entre les espèces animales et les espèces humaines. Et c'est un autre danger du racisme, c'est justement, au fond, d'abaisser les hommes, de considérer que certains hommes sont au fond presque de grands singes. Il est intéressant de noter enfin que Clémence Royer est une traductrice de Darwin en France.
Si je ramasse un peu ce que tu viens de nous expliquer, oui. J'ai le sentiment que l'invention, en quelque sorte, de la race, tout au long du 19e siècle, d'un côté est sous-tendue par l'idée qu'il y a une race qui doit être pure, donc l'idée de la pureté de la race, et d'un autre côté, par l'idée que la classe et les races différemment permet de dire pour chaque race quelles sont ses qualités et aussi ses défauts qui vont permettre de la situer dans une hiérarchie des races. Autrement dit, ces classifications, c'est pas simplement marquer des différences pour essayer d'extraire la plus pure, c'est aussi dire lesquelles méritent d'être inférieures, lesquelles méritent d'être supérieures, lesquelles méritent de faire un travail de singe, lesquelles peuvent accéder à la haute culture. Autrement dit, est-ce que ce mouvement des idées marche sur deux jambes, la pureté et l'infériorité, la hiérarchie, ou est-ce que tout ça c'est un mouvement d'ensemble qui, où tout se mêle, se mélange, et est-ce qu'il y a un penseur du racisme, qui aurait synthétisé en quelque sorte tout ceci ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, les deux marchent l'un ensemble sans synthèse véritable, heureusement d'ailleurs, parce que le racisme joue aussi toujours sur un fond de rejet de l'autre, qui est un fond qui remonte sans doute au début de l'histoire. Les Esquimaux, paraît-il, du moins selon Jean-Noël Mallory, qui a vécu chez eux, disent d'eux-mêmes, ils se désignent comme les meilleurs des hommes, et ils désignent tous ceux qui ne sont pas esquimaux par un terme qui signifie les poux de la terre. Et je crois qu'il y a là-dedans, un réflexe de défense des groupes humains qui est extraordinairement ancien et qui va sans arrêt, au fond, pénétrer les théories racistes. Celles-ci, d'un côté, s'appuient sur des découvertes scientifiques de l'époque, sur, au fond, des transpositions de la manière dont on voit le monde animal vers le monde humain, et en même temps, emprunte à ce vieux fond qui est, justement, on ne peut pas dire raciste, qui est un fond de... peut-être xénophobique, mais qui est un fond simplement de rejet de tout ce qui est différent d'un groupe, que ce groupe soit petit ou grand. Et en général, les Esquimaux, c'était des tout petits groupes, ça ne les empêchait pas de rejeter le reste du monde. Donc, et je pense aussi qu'il n'y a pas possibilité, justement, d'avoir une théorie raciste entièrement cohérente, puisque, comme on l'a vu à différents niveaux, elle fonctionne sur des emprunts et elle fonctionne aussi effectivement sur des ambiguïtés très fortes, et une de ces ambiguïtés est effectivement illustrée par le rapport entre race et classe sociale, par cette, au fond, cette espèce de vertige qui saisit la plupart des auteurs racistes qui tentent d'assimiler les races à des classes sociales et les classes sociales à des races, de façon, au fond, à établir, et c'est là qu'on retombe sur la hiérarchie, à faire que la hiérarchie sociale devienne une hiérarchie biologique elle aussi.